Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richet, Virginie Leduo, Catherine Donnet et Marie Vidal, réalisée par Liscom, accompagnée ce soir à la prise de son d'Alexandre Dang. C'est une justice qui manque de tout, de greffiers, de juges, de temps, de moyens matériels et même parfois de plaignants. Une justice qui manque de tout, c'est une phrase de Véronique Brocard, la journaliste qui a écrit « Au cœur des prud'hommes », livre de choses vues et entendues pendant 2 ans aux audiences de ce conseil. En 2 ans, on peut se poser la question combien l'auteur de ce livre a-t-elle vu d'affaires se résoudre ? Car ce qui revient auprès de ceux qui ont recours à ce conseil, c'est cet état d'épuisement, d'exaspération, englué dans un marathon judiciaire qui peut durer jusqu'à 2 ans. Et c'est parfois un minimum. Il faut donc se montrer un poil pugnace, c'est rien de le dire, pour parvenir au bout d'une telle procédure. C'est d'ailleurs pour cette raison que la France se situe en dessous de la moyenne européenne en ce qui concerne les affaires portées devant les tribunaux du travail. C'est aussi pour cela que le syndicat des avocats de France se sont mobilisés à plusieurs reprises afin de faire condamner l'État pour déni de justice. Alors bien sûr, la loi Macron adoptée le 10 juillet dernier comporte des éléments de réforme des prud'hommes, notamment en ce qui concerne ces délais de procédure, des modes de médiatisation et en ce qui concerne aussi la professionnalisation des conseillers. Mais cela suffit-il à la justice du travail pour qu'elle guérisse son manque de clarté, d'accessibilité, de moyens ? Les initiatives de tribunaux privés qui peuvent alors émerger dans le milieu de l'entreprise ne sont-ils pas symptomatiques d'une justice du travail embourbée dans des handicaps qu'aucune réforme n'a jusqu'alors vraiment réglé ? Alors malgré cette réforme des prud'hommes, sommes-nous en train de basculer vers une justice privée des entreprises ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, vous êtes là, Sandrine Foulon, journaliste au sein du magazine Alternatives économiques. Vous avez signé ce double numéro estival, l'article suivant « La réforme des prud'hommes manque sa cible ». Et ce double numéro intitulé donc « 5 idées reçues sur les Français » est toujours en kiosque en ce moment. Bonsoir à vous.
Bonjour.
Avec vous pour discuter, Hubert Flichy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, vous avez cofondé le cabinet Avoisial, spécialisé en droit du travail. Et vous avez monté ce Centre national d'arbitrage du travail, le CNAT, que vous présenter comme une alternative à la justice prud'homale. Nous allons en parler au cours de cette émission. Et notre troisième invité sera avec nous au téléphone. Il s'agit de Maude Beckers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate en droit du travail et vous avez présidé la commission sociale du syndicat des avocats de France. Alors, comme je le disais en début d'émission, la loi Macron prévoit donc un volet consacré au licenciement et à la réforme des prud'hommes. Elle a été adoptée, cette loi, le 10 juillet dernier. Une loi qui met donc l'accent sur les délais et la professionnalisation des conseillers. Pour résumer, on va détailler tout cela au cours de cette émission. Et il y a certaines mesures qui ont été censurées il y a 2 semaines par le Conseil constitutionnel, celles qui concerne le plafonnement des indemnisations dues aux salariés en cas de litige. La loi Macron prévoyait un barème d'indemnisation qui devait tenir compte non pas de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, mais de la taille de l'entreprise même. Alors, à quoi est-ce qu'elle répond, cette réforme, et comment y répond-elle, Hubert Flichy ?
Voilà. Le projet de réforme, enfin la réforme qui a été abandonnée finalement et cassée par le Conseil constitutionnel, je crois que l'objectif était d'essayer de, en plafonnant les indemnisations, de convaincre les entreprises de se risquer à embaucher. C'était grosso modo l'idée. Et cette réforme a été critiquée. Elle a été critiquée en particulier parce qu'elle allait à l'encontre du principe de la réparation intégrale. Et nos confrères avocats étaient en particulier très, très hostiles à cette mesure-là. On a eu beaucoup de débats sur la question.
Elle limitait les dédommagements dus aux salariés.
Alors, elle limitait les dédommagements. Et le point sur lequel le texte a chopé devant le Conseil constitutionnel est le suivant, c'est que la barémisation qui était ainsi faite ou les plafonnements qui étaient ainsi institués variaient en fonction de la taille de l'entreprise. Et il a été jugé que cela allait à l'encontre du principe de l'égalité devant la loi, en ce sens qu'un citoyen, un travailleur, doit avoir la même indemnisation, quelle que soit la taille de son entreprise. Et c'est ainsi que cet aspect de la loi Macron, qui était très important, on peut être pour, on peut être contre, mais en tous les cas, qui était un élément, à mon sens, clé de la réforme, et sur lequel j'ai moi-même émis des réserves dans le cadre d'une campagne ordinale, et est tombé. Et donc, il faut bien dire que la loi Macron, qui a beaucoup de portée à bien des égards, en matière de réforme prud'homale, est quand même sérieusement affaiblie par cette décision du Conseil constitutionnel.
Juste à quels égards vous aviez émis des réserves, à quels égards de cette loi ?
Ben, à l'égard du principe de la réparation intégrale du préjudice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre système juridique, quelqu'un qui souffre d'un dommage a droit à réparation, à l'intégralité de son dommage. Et donc, si son dommage va au-delà de ce que le barème prévoit, eh bien, on estime que la réparation n'est pas intégrale. Et il y a une critique sur ce point-là.
Oui, sur ce plafonnement décidé par l'État, Alain Lacabara, l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, avait publié un rapport ministériel en 2014. Il disait que sur le plafonnement qui était décidé par l'État, ça ne reposait pas sur une évaluation des indemnités allouées par les juridictions. Sandrine Foulon, vous qui avez travaillé sur ce sujet, comment vous voyez les choses ? Comment ce projet de réforme répond aux changements nécessités par les prud'hommes ?
Alors, juste pour répondre sur la barémisation, c'est vrai que dans le rapport Lacabarat, il n'y avait pas de barémisation obligatoire. C'est ça la grande nouveauté, et c'est symptomatique, enfin, c'est aussi très politique, parce que au départ, dans l'avant-projet de loi Macron, il y avait cette idée de faire une barémisation, donc une grille, et donc le juge n'aurait plus qu'à presser sur un bouton et dire, en fonction de la violation du droit, on va accorder autant d'indemnités. Mais en fait, les syndicats étaient très hostiles, donc on a retiré cette barémisation du projet de loi, et puis c'est revenu. Et c'est symptomatique quand même d'un débat qui a été pollué, c'est-à-dire que par la question tout simplement économique. Au départ, le rapport de Lacabarat, c'était un rapport, c'était 45 propositions, on peut en dire ce qu'on en veut, mais c'était quand même, la méthode était plutôt bien choisie, il y a eu une concertation de tous les acteurs, on a auditionné, et l'idée c'était de, sur cette base-là, de faire une réforme de la justice. C'était à la chancellerie, et puis ça a basculé étonnamment à Bercy.
Oui, c'est là, ministère de la justice, voilà, à celui de l'économie.
Et c'est là où c'est symptomatique, c'est qu'au lieu d'avoir une amélioration de la justice, du fonctionnement des prud'hommes qui en ont vraiment besoin, là tout le monde est d'accord pour dire que c'est un fonctionnement qui est totalement patent, mais là l'idée c'est de résoudre des problèmes économiques, de dire que notamment les petits patrons ne peuvent plus embaucher, et là on est sur cette barémisation, on est en plein dans une réponse aux employeurs.
Maud Beckers, pour reprendre ce que vient de dire Sandrine Foulon, c'est donc un projet de loi qui est passé des mains du ministère de la Justice à celui de l'économie. Qu'est-ce qu'on cherche à faire des prud'hommes au niveau de l'État ?
Écoutez, je voudrais d'abord rebondir sur ce problème de la barémisation qui en effet était totalement scandaleux dans le projet Macron, puisque ce qu'il faut comprendre dans cette réforme sur la barémisation, c'est qu'on ne cherchait pas à rendre le licenciement légal et justifié moins cher, mais on cherchait à rendre le licenciement abusif moins cher pour les entreprises. Donc on était dans un système où on allait finalement rassurer des employeurs en leur disant « ne vous inquiétez pas, vous pouvez violer la loi et le code du travail sans trop vous inquiéter, puisque vous risquez uniquement cette peine-là, cette sanction-là. » Donc en fait, on permettait à l'entreprise de rationaliser le coût de la violation de la loi, et je pense que c'est vraiment la première critique qu'on peut faire. Bon, il se trouve, heureusement, et d'ailleurs le SAF avait déposé un mémoire, le syndicat des avocats de France avait déposé un mémoire également devant le Conseil constitutionnel. Heureusement, le Conseil constitutionnel a annulé cette barémisation, mais il ne faudrait pas que le gouvernement tente de nouveau de passer une tentative de barémisation, notamment en s'appuyant sur des notions d'ancienneté, puisque il faut absolument que le préjudice réparé répare l'intégralité du préjudice et non pas simplement des forfaits.
Sandrine Foulon, sur cette question.
Oui, c'est juste pour appuyer ce que dit Maud Becker. C'est vrai que cette barémisation n'est pas du tout enterrée. Les sages du Conseil constitutionnel ont dit non à la rupture d'égalité entre petites et grandes entreprises, mais sur l'ancienneté, il n'y a aucun problème. Donc, par décret, le gouvernement peut très bien fixer une nouvelle grille, une nouvelle barémisation, à savoir si elle sera appliquée.
Alors, sur la question des délais, parce que c'est un des problèmes majeurs qui est régulièrement pointé quand on parle du Conseil des prud'hommes, et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, ça, souvent les salariés hésitent à se lancer dans les procédures. La réforme contenue dans le projet de loi Macron met en place des procédures accélérées avec des bureaux de conciliation et d'orientation. Et donc, ces bureaux ont un délai de 3 mois pour statuer. Mais il y a aussi, et ça c'est sur le papier, pour désengorger les tribunaux, la possibilité de faire appel à un médiateur pour la résolution d'un conflit à l'amiable. Alors, à quoi servent ces prud'hommes dans ce sens? On met en place des instances qui sont censées en faire partie, mais qui transforment un peu leur mission de départ pour trancher, c'est ça, Hubert Flichy?
Oui, l'idée est que le salarié qui est mécontent de son licenciement va donc en justice et le juge, en l'espèce, là, le conseil de prud'homme et le bureau d'orientation, de conciliation et d'orientation, peut estimer que, vu le type d'affaires, il serait préférable qu'il y ait un médiateur. Écoutez, la médiation a été une procédure qui a été connue pas mal de succès. Elle fonctionne bien en matière commerciale, elle fonctionne particulièrement bien en matière familiale. Pas toujours, mais elle a vraiment sa raison d'être. À chaque fois qu'il y a une raison forte de permettre aux parties de sortir la tête haute du conflit qui les oppose. En particulier en matière familiale, à partir du moment où il y a les intérêts d'un enfant, il y a beaucoup plus facilement le rôle du médiateur qui va aider les parties à trouver une solution.
Et ça marche déjà moins bien dans le monde de l'entreprise.
Dans le monde de l'entreprise, en matière commerciale, ça marche bien lorsque, par exemple, vous avez un fournisseur qui doit continuer à vivre avec son client. Il faut coûte que coûte les mettre d'accord. Donc, la médiation est une bonne chose. En matière prud'homale, c'est nettement plus compliqué. Parce que il est bien rare qu'un salarié ait envie de retourner dans l'entreprise qui l'a licencié. Donc la donne est largement différente. En tous les cas, il y a des cas où ça peut fonctionner et il faut parfois que ce soit le système judiciaire qui incite à aller vers la médiation parce que les gens n'y ont pas forcément pensé, parce qu'aujourd'hui c'est un système qui n'est pas si développé que ça.
J'allais
dire
presque,
il y a presque plus de médiateurs que de gens concernés par demandant la médiation. Donc, c'est pas encore bien lancé et que le bureau de conciliation et d'orientation, son nouveau nom, incite à cela, ça peut être bien. En tous les cas, qu'on ait supprimé tous les freins à cette voie-là, je trouve ça bien.
Maud Beckers, sur cette question, vous vouliez réagir?
Oui, je ne partage pas du tout l'analyse de mon confrère Fichy sur ce point-là. Pour moi, cette réforme repose sur un postulat qui est totalement faux et c'est la raison pour laquelle elle ne pourra aboutir au but affiché. Elle part du postulat que ce qui explique les délais et les délais déraisonnables et son dysfonctionnement, ce seraient des problèmes de procédure qu'on pourrait régler par une réforme législative. Or, tout le monde sait depuis justement qu'il y a eu ces procès qui ont été faits en 2011-2012 que les problèmes de la justice prud'homale ne résident pas dans des problèmes de fonctionnement institutionnel ni de procédure, mais uniquement dans le manque de moyens humains et financiers dont disposent ces juridictions qui sont des juridictions pauvres à ce niveau-là. Et ce n'est pas moi, simplement Maud Beckers du syndicat des avocats de France qui le dit, ce sont les juges qui l'ont dit dans leurs décisions qui sont très claires en 2012. Après avoir épluché chacun des dossiers, des 71 dossiers que nous avions portés devant les tribunaux et qui ont vu qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement des juridictions, mais bien un manque de moyens, et c'est écrit dans les décisions de justice. Et ce qui est particulièrement choquant dans cette affaire, c'est qu'à l'époque, le Parti Socialiste était dans l'opposition, c'était le gouvernement Sarkozy donc qui était au pouvoir, et nous avions des communiqués du Parti Socialiste qui disaient à l'époque, c'est totalement scandaleux, le manque de moyens qui sont donnés aux juridictions du travail, quand est-ce que le gouvernement en place va faire le nécessaire? Claude Barthelone, qui était alors député de la Seine-Saint-Denis, et non pas président donc de l'Assemblée nationale, à l'époque, il posait des questions au gouvernement lors de débats à l'Assemblée nationale, en disant, mon conseil de prud'homme sur mon département qui n'y a pas Bobigny est complètement étouffé, il n'a pas suffisamment de moyens, quand allez-vous faire le nécessaire? Puis, on nous fait travailler pendant 2-3 ans avec Madame Taubira sur des commissions, des rapports, etc., pour voir Madame Taubira évincer du départ au profit du ministère de l'Économie qui nous fait ces propositions-là. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des propositions, en effet, pour accélérer les procédures. Et en effet, devant le bureau de conciliation, il y aura une possibilité pour les litiges simples de dire « je veux passer devant une juridiction, devant le Conseil de prud'homme, dans les 3 mois ». Bon.
D'accord. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, est-ce que c'est possible?
C'est sur le papier. Mais il y a déjà des délais qui existent. On dit déjà que quand on est face à un licenciement pour motif économique, on doit passer dans les 7 mois. Déjà, quand il y a une requalification de CDD en CDI, on doit passer dans les 1 mois. Lorsqu'il y a une prise d'acte de la rupture, on doit passer dans les 1 mois. Ces délais ne sont jamais...
Dans les faits, ça prend combien de temps en général?
Écoutez, ça dépend des juridictions, mais par exemple, là, nous avons fait une nouvelle action collective sur 270 dossiers. Nous avons déposé ces 270 dossiers le 8 juin. Il y a essentiellement des juridictions parisiennes, mais aussi Marseille, Lyon et Nantes sont concernées. Et nous pouvons aller sur des délais, rien qu'au Conseil de Prud'homme, qui sont entre 3 et 5 ans, notamment à Bobigny et Nanterre. Sachant que ces dossiers peuvent après donner lieu à des appels. Donc nous sommes sur des dossiers extrêmement importants pour les justiciables qui peuvent durer jusqu'à 7 années. Et le seul moyen qu'on trouve, c'est de nous dire, après avoir pourtant reconnu qu'il y avait un problème de moyens il y a quelques années, c'est de nous dire, on va créer un nouveau délai dans le code du travail. Donc on se moque vraiment de nous. Ce délai ne pourra jamais être tenu. Et je m'en entretenais la dernière fois avec Jamila Mansour, qui est présidente du conseil de prud'homme de Bobigny, qui est affolée. Elle dit, comment vais-je faire pour respecter ce délai de 3 mois quand je n'ai pas de greffier ?
Alors que dans cette juridiction-là, les délais peuvent aller jusqu'à 5 ans en moyenne. Parfois.
Alors, devant ces juridictions, ça peut aller jusqu'à, s'il y a un départage, jusqu'à 3-4 ans. Après, ça peut aller au-delà de 5-6 ans pour les justiciables s'il y a un appel. Mais devant le conseil de prud'homme, on peut avoir des délais qui sont de 3-4 ans devant certaines sections.
Et, réagir Hubert Flichy à ce que vous venez de dire avant de vous laisser poursuivre.
Moi, ma réaction, c'est que c'est simplement de dire un mot de Becker, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Le problème, en ce sens qu'il n'a jamais été dit dans la loi Macron qu'il n'y avait pas de problème de moyens. Il y a manifestement des problèmes de moyens. Je crains que la loi Macron ne change rien à la donne pour cela. C'est-à-dire qu'il faudra un jour ou l'autre que l'on donne plus de moyens au conseil de prud'homme. Je rappelle que ce sont des gens qui, des conseillers prud'homaux, sont des gens bénévoles, sont vaguement indemnisés, mais c'est insignifiant. Je rappelle qu'il y a un nombre de greffiers qui est limité. Maud a évoqué à plusieurs reprises la juridiction de Bobigny. Il se trouve que j'y ai beaucoup plaidé ces 2-3 dernières années. Je pense que c'est un des conseils de prud'homme où on voit très clairement l'attachement et les efforts, le mal que les juges se donnent pour faire le job. Le mal que font aussi qu'on se donne aussi les juges départiteurs, et qui sont des juges départiteurs de grande qualité, je l'ai vu à plusieurs reprises à Bobigny. Et malgré tout ça, eh bien, les délais sont relativement longs. Et donc, je crois qu'on est complètement en phase sur ce point-là. Mais c'est d'ailleurs pas le seul domaine de la justice où il y a des moyens insuffisants. Il n'y a pas d'argent, quoi. Il faut être clair, il n'y a pas de sous.
C'est assez généralisé. Sandrine Foulon.
Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une logique de contournement de la justice prud'homale. Et il y a un débat qu'on n'évoque jamais, c'est celui tout simplement de ces juges paritaires. Parce que ce sont des patrons de PME, ce sont des syndicalistes pour la plupart. Donc, soit on considère qu'ils peuvent rendre la justice de manière objective, partiale, mais c'est un débat qui souvent est sous-jacent. Mais là, on construit des circuits de dérivation. Donc, au lieu de donner des moyens et de permettre à ces juges prud'homaux de mieux faire fonctionner leur juridiction, c'est le cas notamment avec la formation, je pense que ça, c'est un aspect très important. Mais là, on permet la médiation, éventuellement l'arbitrage, le juge départiteur qui est un juge professionnel, c'est le juge qui départage les parties quand elles ne sont pas d'accord, mais encore faut-il, c'est vrai qu'il y en ait en nombre suffisant, et on attend 15 mois pour avoir un juge départiteur, donc au lieu de mieux faire fonctionner cette justice, qui est quand même l'objet, on est dans un autre débat qui est celui de se dire finalement évitons au maximum le juge prud'homal.
Mais justement, là on parle donc de ces délais, on parle de ces instances que cette réforme des prud'hommes prévoit de mettre en place pour régler ces problèmes de délai. Il y a aussi ces bureaux pour désengorger le nombre de les tribunaux et le nombre de jugements. Mais est-ce que on n'est pas en train aussi de transformer un peu la mission de départ des prud'hommes en y ajoutant tous ces organismes autour? Est-ce qu'on n'est pas en train de vider la mission des prud'hommes de sa substance justement aujourd'hui avec cette réforme?
Non, franchement, là, je ne crois pas. Le Conseil de prud'homme conserve sa mission absolument intacte, c'est-à-dire de régler les conflits qui existent entre employeurs et salariés, ou entre salariés eux-mêmes, puisqu'ils ont aussi cette compétence-là. La mission reste rigoureusement identique. Simplement, comme dans d'autres domaines, on citait le problème du droit de la famille, on citait le droit commercial, on a recours aujourd'hui. On pense qu'il est bien de trouver d'autres moyens qui peuvent être plus efficaces. Certains y voient une justice beaucoup plus moderne que d'avoir des médiateurs et qui pourraient essayer de régler un certain nombre de cas. Moi, je dis simplement, pourquoi pas. Mmh. Et de la même façon, nous y viendrons, si vous le voulez bien, mais pour ce qui est de l'arbitrage,
oui, on va
je dis simplement, pourquoi pas. Pourquoi interdire, pourquoi aurait-on
juste
interdit
avant d'en
quelque
parler,
chose comme ça.
Je voudrais entendre Maud Becker sur cette question.
Oui, mais écoutez, moi je pense au contraire que, en effet, tous les efforts qui vont du côté de la médiatisation affirment une défiance vis-à-vis du Conseil de Prud'homme qui est très claire. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la conciliation, le fait que les parties se rapprochent, c'est important. Et dans certains litiges, ça sauve des justiciables qui n'ont pas envie, en effet, de se lancer dans des procédures extrêmement longues. Et je ne suis pas du tout contre les rapprochements possibles des parties, sauf que c'est déjà possible devant le Conseil de Prud'homme. Il y a une phase qui s'appelle le bureau de conciliation qui existe, où la mission des deux conseillers qui président cette audience est de rapprocher les parties. Donc, elle existe déjà, cette faculté de concilier les parties. Pourquoi l'extraire du pouvoir des conseillers prud'hommes pour le donner à un médiateur qui ne fait pas partie du monde du travail, qui n'est pas au fait du monde du travail, du monde syndical, comme le sont les conseillers prud'hommes qui ont été élus jusqu'alors, enfin, maintenant ils seront désignés, mais qui étaient élus. Et en plus, les parties vont devoir payer ce médiateur. Je m'interroge vraiment sur l'intérêt pratique de priver ces conseillers prud'hommes de cette partie de résolution des conflits qui est la conciliation.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Réforme des prud'hommes, va-t-on vers une justice privée de l'entreprise ? On tente de répondre à la question avec les avocats Maud Becker, Subert Flichy et la journaliste d'Alternatives économiques avec qui nous sommes en partenariat, Sandrine Foulon. Je voudrais qu'on aborde ce point du nombre de saisines. Alors, on parle aussi, donc, comme je le disais, de désengorger les tribunaux. Or, le nombre de saisines est très stable. Sandrine Foulon, vous commencez d'ailleurs votre article, il me semble, par ce point. Un nombre de saisines stable depuis 1983. La France se situe en dessous de la moyenne européenne. Ça pose aussi la question du profil des plaignants. Les salariés les plus précaires, les moins instruits, n'osent pas nécessairement se lancer dans une procédure longue qui va leur coûter de l'énergie et du temps.
Non, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est vrai qu'on parle d'un côté de tribunaux désengorgés, c'est vrai à Bobigny, à Nanterre, à Paris, c'est une réalité. Et on se dit, il y a un nombre de saisines qui est assez stable, mais le problème, c'est qu'on a eu une réforme de la carte des prud'hommes qui n'a pas rempli ses objectifs, où l'idée était quand même de rétablir un peu des équilibres. Donc vous avez des endroits comme à Nanterre, mais c'est simple, ça s'explique parce qu'il y a énormément d'entreprises à la Défense dans les Hauts-de-Seine et que ces tribunaux-là sont totalement engorgés, ils n'arrivent plus à faire face. Et vous êtes dans d'autres
conseils de prud'homme.
Oui, complètement. Mmh. Et vous allez dans les conseils de prud'homme dans d'autres régions en France où ça se passe très bien. Vous avez peut-être un an d'attente. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai que là où ce qui est important, c'est de dire que le nombre de recours est en baisse. Ça répond à l'idée qu'on fait un mauvais procès aux prud'hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat qui nous a pollué toute l'année, qui est de dire les prud'hommes sont un frein à l'embauche. C'est totalement faux. Ça n'a jamais été étayé par aucune étude économique. Au contraire, le centre d'études de l'emploi a montré que c'est plus le chômage qui crée les recours que l'inverse. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller. Et il faut voir que le nombre de... Et aussi, ça va à l'encontre de l'idée que les Français se précipitent dès qu'ils ont un problème devant les conseils de prud'hommes. C'est absolument faux. Effectivement, on a un taux de recours qui est inférieur à la moyenne européenne. Et c'est important de le rappeler. Il faut rappeler aussi que, par exemple, on a une rupture conventionnelle qui existe depuis 2008 et qui évite un grand nombre de contentieux. Donc on ne peut pas dire que dès qu'il y a un problème, on va devant les prud'hommes. Et justement, vous avez raison de mentionner aussi le profil des demandeurs. Il y a une étude très intéressante d'Evelyne Cerverin qui est sur Internet qu'on peut voir sur l'évolution des profils. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont majoritairement plutôt masculins, sont des hommes, âgés, des cadres, parce qu'il faut avoir un potentiel, il faut avoir l'énergie, le profil psychologique pour se dire pendant 3 ans, 4 ans, je vais mener une bataille judiciaire, c'est pas évident. Donc, c'est pas la personne intérimaire ou la personne qui enchaîne 4 CDD qui va aller s'embourber pendant 4 ans pour récupérer 500 euros à la fin. Donc, voilà, c'est aussi ça aussi, c'est qu'on a une justice à deux vitesse. Alors, je sais pas, j'aimerais entendre du réfléchir sur l'arbitrage, mais qui peut aller à l'arbitrage ? Est-ce que ce sont les cadres ? Est-ce que ce sont les
justement,
salariés
on peut aussi mentionner dans l'actualité ces employés des toilettes publiques de la ville de Paris qui se retrouvent sans employeur suite à une reprise du marché par une société autorités néerlandaises, mais elles ont mis du temps, elles, à se tourner vers les prud'hommes. Il a fallu que leur cas soit médiatisé.
Oui, mais aussi, surtout, mais ça, il y a eu aussi une très belle bataille des femmes de ménage des hôtels. Mais le problème, c'est que derrière, il y avait la CGT. Là, aujourd'hui, il y a Force Ouvrière.
Elles sont très portées par les syndicats aussi.
C'est 11 personnes qui sont soutenues, mais qui, aujourd'hui, peut, quand on gagne 1300 euros, aller comme ça, tout seul, devant les prud'hommes. Non, elles sont 11, elles sont soutenues. Il y a même Jean-Claude Mailly, tout le monde, le leader des faux, tout le monde les a soutenues. Donc, c'est tout à fait différent. Mais aujourd'hui, quand on est tout seul, on va pas nécessairement aux prud'hommes.
Maud Beckers, sur cette question.
Oui, je voulais rebondir puisqu'il est vrai en effet que tous les débats qui ont, je suis d'accord avec Sandrine Foulon, il y a tout un débat et tout un postulat qui est faux. Et finalement, ce n'est pas le code du travail, le conseil de prud'homme qui fait peur aux employeurs, mais c'est bien le faux débat qu'on a autour de cette problématique-là, notamment dans certains médias. C'est que, en effet, le conseil de prud'homme, premièrement, n'est pas envahi de demandes, et deuxièmement, deuxième postulat que je voulais démonter, on dit souvent au conseil de prud'homme, le salarié gagne toujours. Et ce qui effraie les entreprises et ce qui justifierait qu'on puisse éventuellement avoir recours à d'autres sources de justice alternatives ou alors plus à la médiation. Alors, je voulais juste rappeler que si les salariés peuvent éventuellement, en effet, il y a des chiffres qui montrent que majoritairement les salariés gagnent, c'est uniquement parce qu'il y a un filtre, ils sont demandeurs à l'action.
Les affaires sont présélectionnées.
La plupart du temps, ils voient ou un délégué syndical ou un avocat qui va leur dire d'y aller ou de ne pas y aller. Et le filtre est fait de telle manière que lorsque les affaires arrivent au conseil de prud'homme, oui, en effet, elles peuvent être majoritairement gagnées. Donc, faire peur avec le conseil de prud'homme est vraiment d'une mauvaise foi sans nom, d'autant plus que je rappelle quelque chose qu'on oublie, le conseil de prud'homme, c'est le paritarisme. Il y a deux conseillers qui représentent les syndicats salariés et deux conseillers qui représentent les syndicats employeurs. Donc, on ne peut pas dire que la juridiction du travail est une juridiction qui serait partiale et qui condamnerait systématiquement les entreprises et qu'il faudrait donc rassurer les employeurs sur ce qu'ils risquent devant les conseils de prud'homme, notamment en plafonnement les indemnités.
Alors, Hubert Flichy, vous avez mis en place un centre d'arbitrage du travail depuis septembre 2014, c'est ça, je ne me trompe pas ?
C'est
longtemps ?
Plus récent que ça. C'est vraiment, tout a été bouclé juridiquement.
Vous en parliez déjà dans une interview pour la revue juridique en septembre 2014.
On a lancé l'opération, à voir si c'était intéressant, à voir quelles étaient les réactions, à voir d'ailleurs les réactions de la presse qui ont été... très importante et très, 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 très nombreuse de la presse professionnelle.
Alors, juste pour revenir sur le fonctionnement, c'est une association à but non lucratif,
oui.
Avec un ou trois arbitres. Après, vous allez préciser un peu plus son fonctionnement. Et le recours à ce centre ne peut pas être exigé dans un contrat de travail par une des deux parties seulement. Vous dites que les centres d'arbitrage sont une alternative plus qu'une concurrence au prud'homme, mais vous avez tout de même monter ce centre et ses principes de fonctionnement en réponse aux dysfonctionnements connus des prud'hommes, à commencer par ces affaires cette question des délais.
Je voudrais préciser que l'arbitrage n'est pas quelque chose que nous avons inventé. On
n'a
pas modifié la loi. C'est quelque chose
mais
qui
quand
existe
vous présentez
dans la loi
but de
française,
votre
dans le code de procédure civile. C'est les textes organisent l'arbitrage et ne disent nullement que ça ne serait pas possible là. Alors, il y a eu néanmoins un débat, je veux bien qu'on y revienne, mais je ne sais pas si c'est intéressant. En tous les cas, la jurisprudence aujourd'hui est très claire, l'arbitrage est possible en droit social.
Le débat ne porte pas sur sa possibilité.
Le fait est qu'il y avait peu de recours à l'arbitrage dans cette matière-là. Et que je me suis dit avec des confrères, et je ne précise pas du tout avec des confrères forcément orientés d'un côté ou de l'autre, mais représentant aussi bien des entreprises que des salariés ou des organisations syndicales, nous nous sommes dit ensemble, mais il faut avoir une alternative. S'il y a des cas où les deux parties s'arrangeront bien d'avoir un arbitre ou trois arbitres qu'ils vont choisir pour trancher leurs différends, pourquoi pas ? Il ne s'agit pas de désengorger à proprement parler le Conseil de prud'homme. Ce serait vraiment une ambition et je veux dire une prétention
ridicule. De réduire des délais, comme vous précisez dans la présentation.
Il s'agit simplement de permettre, dans des cas précis où les gens estiment que c'est bien qu'il en soit ainsi, de pouvoir régler le différend par la voie de l'arbitrage, c'est-à-dire par la voie de juges qu'ils ont eux-mêmes choisis, qu'ils ont désigné, en qui ils ont confiance et à qui ils disent, eh bien, rendez-nous justice comme le code de procédure prévoit que cela est possible en toute matière.
Maud Beckers, qu'est-ce que vous pensez de ces centres d'arbitrage privés du travail ?
Moi, je ne vais pas porter le débat sur le débat technique de la légalité de ces centres d'arbitrage.
Non, c'est pas le débat, on est bien d'accord.
Même si je pense en effet qu'il y a matière à dire sur ce sujet, je tiens à rappeler qu'en effet, il y a possibilité de faire recours à des centres d'arbitrage dans d'autres matières, mais dans des matières où le lien contractuel met les parties sur un pied d'égalité, non pas lien de subordination comme dans le contrat de travail. Donc c'est la première réflexion que je voulais faire. Ensuite, je pense que ces centres d'arbitrage violent tout de même des principes essentiels de notre système de démocratie avec la justice sociale que nous pouvons avoir dans nos pays démocratiques. Je rappelle tout de même qu'il y a quatre piliers pour moi qui sont fondamentaux pour qu'une justice sociale puisse se dire démocratique, c'est l'indépendance des juges, de toute forme de pouvoir, que ce soit vis-à-vis de l'État, mais également de lobbies économiques ou financiers. Il y a l'accessibilité de la justice à tous, ce qui veut dire la gratuité et l'égalité des citoyens face à la justice. Il y a la transparence qui est également extrêmement importante. Il faut que la justice et les jugements soient publics pour que les citoyens sachent qui se déroule notamment dans certaines entreprises, et puis évidemment que la justice soit efficace. Alors, sous prétexte de rendre la justice efficace, mon confrère Fichy propose de créer un centre d'arbitrage qui finalement balaye d'un revers de main à un certain nombre des principes que je vous ai énoncés. La justice deviendra payante, puisqu'il faut payer son juge qui est l'arbitre.
Il faut payer entre 2 et 3 000 euros, c'est ça, pour un contentieux de 50 000 euros à peu près, voilà, pour donner une idée.
Oui, ce qui est une somme qui est tout de même importante quand le principe de la gratuité de la justice. Les juges ne sont plus non plus les critères requis pour être considérés comme indépendants. Mon confrère Fichy a fait appel à un certain nombre d'avocats en exercice pour être arbitre. Alors moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas la pression d'exercer un métier qui me permet d'être neutre dans la façon de me comporter au jour le jour et notamment devant des juridictions. Je ne vois pas comment des avocats en exercice, surtout en droit du travail, où on a comme client ou des entreprises, souvent c'est comme ça, il y a des confrères qui font les deux, mais quand même, majoritairement, les avocats spécialisés exercent ou du côté des employeurs ou du côté des salariés. Je ne vois pas comment ces avocats deviendraient tout d'un coup neutres et pourraient permettre de garantir une justice impartiale. Et puis surtout, la justice ne sera plus publique avec ce type de centre d'arbitrage, puisque finalement, ce que recherchent les parties, c'est la confidentialité. Alors, il est extrêmement important dans une justice démocratique que l'on sache ce qu'au fond certaines sociétés, notamment les grosses sociétés, et on sait très bien que finalement, dans ces centres d'arbitrage, eh bien, iront les jugements concernant les problèmes de discrimination, égalité homme-femme, syndicale, raciale, le travail dissimulé, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, bref, tous les critères, toutes les demandes qui pourront reposer sur un motif infamant par l'employeur, eh bien, on aura intérêt à les juger dans ces centres d'arbitrage pour permettre la confidentialité. Donc moi, j'estime qu'au-delà du débat technique sur la légalité de ces centres d'arbitrage, il y a tout de même un grand nombre de difficultés quant au respect des principes essentiels de notre démocratie.
Hubert Fichy.
Alors là, il faut que je corrige. Je pense qu'on n'a pas dû être assez explicite et assez clair sur le fonctionnement de l'arbitrage. Il y a un certain nombre de confrères qui m'ont soutenu dans ce projet-là, et comme je vous le disais tout à l'heure, de confrères de tous bords, mais il n'a jamais été question de réserver à ceux qui font partie aujourd'hui des fondateurs du centre la possibilité d'être arbitre. Il est très clair que tous les parties peuvent choisir qui elles souhaitent comme arbitre. Et en pratique, ça se passe de la façon suivante.
Justement, est-ce qu'il y a pas un problème de partialité?
Ça se passe de la façon suivante. Vous avez chaque partie qui, normalement, chaque partie choisit son arbitre. Donc, si vous avez deux parties, c'est généralement le cas, vous avez deux arbitres. Et ces deux arbitres vont choisir, eux, un troisième arbitre. Qui va être ce troisième arbitre? Moi, je ne sais pas, puisqu'on démarre, on verra bien ce que cela va donner. Mais je pense très sincèrement que beaucoup d'entre eux seront d'anciens magistrats, parce que c'est typiquement la personnalité qui normalement doit rassurer, parce que par leur habitude de l'indépendance, par leur sens de l'indépendance, par leur habitude de juger. C'est pas évident de juger, il faut prendre une décision, tout le monde n'est pas capable de prendre une décision. Eux, ils sont formés à ça. Eh bien, je pense qu'il y aura des anciens magistrats qui... je suis certain, puisque certains m'ont dit qu'ils étaient candidats. Maintenant, est-ce qu'ils seront choisis? J'en sais rien. Je ne peux pas savoir qui sera désigné. Mais la probabilité, c'est que ce soit ça. Donc, non, ce n'est pas une affaire, d'avocat, même si je pense que ça peut être aussi une occasion pour des avocats d'avoir une activité. C'est un autre sujet que l'on a. On n'est pas ici pour parler de l'activité des avocats, mais pour ceux qui connaissent la question, ils savent que c'est pas mal si on peut aujourd'hui leur donner de l'activité.
Maud Beckers.
Non, mais je vais rebondir très rapidement. Je suis quand même relativement inquiète que l'on imagine un système alternatif à la justice telle qu'elle a été pensée depuis plusieurs siècles et qu'on ne soit pas actuellement capable, alors que visiblement ces centres d'arbitrage sont prêts à commencer, de savoir qui seront les juges qui vont statuer sur des litiges entre les avocats et entre les salariés et les employeurs.
Attendez, on va laisser finir Maud Beckers. Allez-y, Maud Beckers, continuez.
Oui, oui, non, je voulais dire que j'étais assez inquiète, alors que c'est quand même le principe, enfin le pilier du fonctionnement des centres d'arbitrage, que l'on ne soit pas aujourd'hui capable de nous expliquer qui seront les arbitres. On nous dit des avocats en exercice, peut-être pas des avocats en exercice, des anciens magistrats, on ne sait pas. Enfin, il faudrait quand même être un petit peu plus précis pour que ce système puisse fonctionner et avoir une crédibilité.
Il y a aussi une question sur le profil de ces personnes qui vont justement aller s'adresser à ce centre d'arbitrage. Mais avant, je voudrais laisser Sandrine Fouillet non réagir, vous aviez quelque chose à dire.
Non, c'était exactement la question que vous voulez vous poser, bien réfléchir, c'est quel profil pour ces demandeurs.
Est-ce que ça va vraiment changer, compte tenu justement du coût que ça peut représenter de s'adresser à un centre d'arbitrage privé ? Est-ce que
le profil... d'abord sur le coût, on a eu vraiment l'obsession, tous les fondateurs, de trouver une solution pour limiter totalement le coût, vraiment au maximum. Parce qu'on n'a pas voulu, je ne veux pas faire d'autres exemples, faire des références à d'autres affaires. Enfin, pour ceux qui pratiquent l'arbitrage, en particulier en matière internationale et en matière commerciale, on sait qu'il y a des coûts d'arbitrage qui sont très, très importants. Et qu'on ne voulait surtout pas de ça. Bon, parce que ça n'aurait jamais marché. Et puis parce que je pense que ce n'est pas forcément justifié. Ça va être une justice... justice de pauvres, c'est peut-être exagéré de le dire comme ça, mais en tous les cas, c'est une justice qui veut avoir des moyens, qui aura des moyens modérés. Et c'est la raison pour laquelle on a fixé un barème, mais vraiment serré, serré. J'espère que les arbitres accepteront de travailler dans ces conditions-là. J'ai donné un exemple pour grosso modo un contentieux qui va porter sur 200 000 euros. Et si vous avez les trois arbitres, ce qui est a priori la solution normale de droit commun, vous aurez un coût d'arbitrage de grosso modo 5 000 euros. Alors, je suis d'accord avec tout le monde pour dire 5 000 euros, c'est de l'argent. C'est vrai. Mais un contentieux prud'homal, c'est beaucoup d'argent aussi. Et il faut voir que lorsque vous avez des procédures prud'homales qui durent plusieurs années, parce qu'on parle de la procédure devant le Conseil de prud'homme, mais on oublie de parler ensuite de la procédure devant la Cour d'appel et quelquefois devant la Cour de cassation. Tout ça est très long, très coûteux. Et plus ça dure, plus c'est coûteux, pour un tas de raisons. Et plus c'est mal rendu au bout du bout. Pourquoi ? Parce que le jour où la décision est rendue, lorsqu'elle est rendue 5 ans après, les interlocuteurs ont changé, les gens ont disparu, les gens sont dans des mauvaises situations et il ne faut pas croire que le temps va forcément faciliter l'arrangement. Je voudrais juste sur ce point-là insister parce que c'est vraiment, j'en suis convaincu, s'il est important que la justice prud'homale aille plus vite, c'est parce qu'elle doit permettre au salarié de régler un problème qu'il a avec son ancien employeur. Je ne crois pas qu'on soit en bon état pour candidater, pour postuler à un emploi lorsqu'on a encore le fardeau de son ancien contentieux. Et il faut qu'on puisse vider ça. Et c'est pour ça que lorsque vous disiez, madame, qu'il y avait des chiffres constants des saisines du Conseil de prud'homme, c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que ça semble dire qu'on ne va plus chercher le juge. Or, il faut que tout citoyen ait un juge. Alors que dans certains cas, ils préfèrent avoir un juge qu'il va un peu rémunérer pour aller plus vite, c'est une chose. Mais de façon générale, il faut qu'il ait un juge. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Maud Beckers en disant il manque des moyens. Et je suis d'accord avec l'inquiétude que vous avez en regardant ces statistiques parce qu'elles sont le signe qu'il y a une perte de confiance dans notre justice. Et c'est vrai aussi dans d'autres domaines.
Je voudrais faire réagir Maud Beckers justement à ce que vous venez de dire.
Oui, non, mais écoutez, c'est clairement si ce type de juridiction alternative voit le jour, on sera typiquement dans un système où il y aura une justice de riches et une justice de pauvres. Ce n'est pas affolant d'employer ce terme, puisque ce sera celui qui correspondra à la réalité. On vous parle de 5000 euros de coûts d'arbitrage, sans compter les frais d'avocat qu'engendreront ces arbitrages, et je ne crois pas que l'aide juridictionnelle soit prévue devant ces centres d'arbitrage. Donc, très clairement, il y aura une justice de cadre qui seront, à mon avis, un petit peu contraint et forcé d'aller vers le centre d'arbitrage dans l'espoir de ne pas être trop malmenés ensuite par leur ancien employeur dans le cadre de leur recherche d'emploi et donc qui iront sur ces centres d'arbitrage privés. Et puis, il y aura tout le reste des salariés qui devront pâtir du manque de moyens du Conseil de prud'hommes. Et je veux rebondir là sur quelque chose que nous a dit notre confrère Fichy pour justifier la création du centre d'arbitrage, c'est qu'il est d'accord pour dire qu'il y a un manque de moyens, mais qu'il soutient par ailleurs que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Or, cet argument, moi, je refuse de le prendre en considération. Le problème de la crise et le problème des financements des services publics, il existe peut-être, mais n'oublions pas tout de même que nous sommes le sixième pays le plus riche du monde, c'est quand même pas rien, que nous sommes dans un système où quand on regarde les rapports européens sur le pourcentage du PIB que la France consacre à la justice, nous sommes quand même placés derrière l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, ce qui est affolant. Et quand on fait une comparaison de 12 pays ayant à peu près le même PIB que nous, nous sommes classés en 10e position. Donc, il faut considérer qu'il y a un problème de délai au Conseil de prud'homme, que ce problème de délai a comme unique responsabilité son manque de moyens, que la France est en mesure, si elle a la volonté politique de le faire, de donner les moyens à cette juridiction, et il ne faut pas trouver d'échappatoire dans des justices privées qui sont indignes de notre démocratie.
Vous dites, Hubert Flichy, dans une interview que vous avez accordée, donc celle à laquelle je faisais allusion tout à l'heure à la revue La Semaine Juridique, que l'arbitrage privé n'empêchera pas de toute façon de remettre sur la table, pour autant, une réforme de la justice sociale. Mais par quoi elle doit passer, selon vous, cette réforme ?
Bah écoutez, j'ai écrit ça certainement avant la loi Macron, parce que je ne suis pas certain qu'on va entamer aujourd'hui encore une réforme de la justice prud'homale. Il y a eu une tentative, on en parlait au début de cette émission, le problème de la barémisation qui finalement a achoppé devant le Conseil constitutionnel. Et il y a une réforme aujourd'hui qui consiste à un peu réorganiser le chemin que doit suivre une affaire. Et je crois, ce qui est intéressant, de pouvoir permettre que dans certains cas, soit parce que les deux parties le demandent, soit parce que manifestement ce sont des affaires qui méritent une attention toute particulière, sans doute parce qu'elles sont peut-être le premier procès d'une série de procès, eh bien, il y a la possibilité maintenant pour le bureau d'orientation d'orienter l'affaire directement devant le juge départiteur, c'est-à-dire d'avoir tout de suite deux juges plus un départiteur, ce qui est possible, ce n'était possible autrefois que dans un second stade. Donc c'est un gain de temps. Je pense que c'est une initiative qui est heureuse, qui est bonne, qui va être efficace, mais là aussi elle sera efficace s'il y a suffisamment de juges départiteurs, parce que s'il n'y a pas les juges qu'il faut, bien, on n'y arrivera pas. C'est toujours le même problème. Et pour répondre à ce que je viens d'entendre, je dis il n'y a pas d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas plus d'argent. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait plus d'argent. Mais ce n'est pas nous qui en disposons de cet argent-là.
Sandrine Foulon, je voudrais vous entendre depuis tout à l'heure. Voilà, on discute de ce centre d'arbitrage du travail. Est-ce que vous, qui travaillez régulièrement sur ces questions, vous voyez ce type d'initiative comme un avenir possible du Conseil des prud'hommes? Est-ce que c'est vers cela?
Non, c'est en parallèle. Donc, pourquoi
mais est-ce
pas,
que ça moi, peut remplacer à terme?
Non, remplacer, non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit l'ambition d'Hubert Flichy. L'idée, c'est qu'effectivement, il faut laisser une chance à toutes les initiatives. Le juge départiteur, pourquoi pas aussi. Le circuit court avec la formation restreinte des bureaux de conciliation, pourquoi pas. Maintenant, on est tous d'accord au moins sur un point, c'est qu'il faut davantage de moyens. Ça, on n'y arrivera pas, parce que vous pouvez mettre toutes les bonnes mesures du monde. Si vous n'avez pas les gens derrière, on n'y arrivera pas. Il y a ça, il y a aussi peut-être revoir le maillage territorial. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin, mais c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Pourquoi ne pas penser en amont, dans les entreprises? On se rend compte aussi que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y a des commissions au niveau de la branche, y compris dans les entreprises, où on règle les conflits. Parce que le problème des prud'hommes aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un conflit c'est une juridiction de la rupture. C'est-à-dire que on saisit les prud'hommes quand on est dehors, quand on est viré. Or, là, l'idée, c'est quand même qu'on puisse résoudre des problèmes quand on on est encore dans l'entreprise. Et on se rend compte qu'en amont, plus il y a un dialogue social fort dans les entreprises, et ça c'est un autre débat, bah, plus il y a ça, par exemple s'il y a un comité d'entreprise, s'il y a un CHSCT, s'il y a des syndicats, des DP, des délégués syndicaux, eh bien le taux de recours diminue. Donc il faut aussi réfléchir à tout ça, c'est-à-dire comment on évite les contentieux au maximum.
Eh bien merci, donc la réflexion n'est pas terminée. Réforme des prud'hommes vers une justice privée des entreprises, c'était notre sujet du jour en partenariat avec le magazine Alternatives Économiques, toujours en kiosque jusqu'à la fin de la semaine prochaine a priori. Merci Sandrine Foulon, journaliste dans ce magazine, vous y avez donc signé l'article « La réforme des prud'hommes manque sa cible ». Merci aussi à vous Hubert Flichy, merci également à Maud Beckers. Et un grand merci à Liscom qui nous a accompagnés toute cette semaine à la réalisation de cette émission. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. En attendant lundi, on se retrouvera autour d'une toute autre question. Les droits des lesbiennes, gays, bi et transsexuels sont-ils en train de s'ériger en enjeu politique ? Très bon week-end à tous et à lundi.